Question. Ouh. Réponse. Oui, précisément. Oh, il y a bien plus de choses à expliquer, tellement plus. Mais ce ne serait pas en un seul livre, ni même probablement en une seule vie. Mais tu as commencé et c'est bien. Rappelle-toi seulement ceci. Comme l'a dit votre grand maître William Shakespeare, il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en ont rêvé tes philosophes. Question. Puis-je te poser quelques questions à ce propos? Par exemple, lorsque tu dis que le mental me suit après la mort, est-ce que ça veut dire que ma personnalité me suit? Est-ce que je saurai dans l'au-delà qui j'étais? Réponse. Oui. Et qui tu as jamais été? Tout cela te sera révélé, car alors, il te sera utile de le savoir. À présent, en cet instant, ce ne le serait pas. Question. Et en ce qui concerne cette vie-ci, y aura-t-il une comptabilité, un examen des comptes? Réponse. Dans ce que tu appelles l'au-delà, il n'y a aucun jugement. On ne te laissera même pas te juger toi-même. Étant donné que tu as tendance à te juger impitoyablement dans cette vie-ci, tu te donnerais sûrement une note lamentable. Non, il n'y a aucune comptabilité. Personne qui pointe les pouces vers le haut ou vers le bas. Seuls les humains jugent, et parce que tu le fais, tu prends pour acquis que je le fais aussi, mais ce n'est pas le cas, et c'est une grande vérité que tu ne peux accepter. Néanmoins, même s'il n'y a aucun jugement dans l'après-vie, tu auras l'occasion de voir tout ce que tu as pensé, dit et fait ici, et de décider si c'est ce que tu choisirais à nouveau en te fondant sur qui tu dis être et qui tu veux être. Question. Il y a une tradition mystique orientale autour d'une doctrine appelée Kamaloka. Selon cet enseignement, au moment de la mort, chaque personne reçoit l'occasion de revivre chaque pensée jamais entretenue, chaque parole jamais prononcée, chaque action jamais entreprise. Non de notre point de vue, mais du point de vue de toute autre personne affectée. Autrement dit, nous avons déjà fait l'expérience de ce que nous ressentions en pensant, en disant et en faisant ce que nous avons fait, et à ce moment-là, on nous donne l'expérience de sentir ce que l'autre personne a ressenti en chacun de ces instants. Et c'est selon ce point de comparaison que nous déciderons si nous allons penser, dire ou faire ces choses à nouveau. Des commentaires? Réponse. Ce qui se produit pour vous dans la vie qui suit celle-ci est beaucoup trop extraordinaire pour être décrit ici en des termes que vous pourriez comprendre, car l'expérience vient d'une autre dimension et ne peut se décrire avec des outils aussi sérieusement limités que les mots. Il suffit de dire que tu auras l'occasion de revoir à nouveau cette vie-ci, sans douleur, ni peur, ni jugement, dans le but de déterminer tes sentiments à propos de ton expérience ici et à partir de là, ce que tu entends faire. Nombre d'entre vous décideront de revenir ici, de retourner à ce monde de densité et de relativité pour avoir une autre chance de vivre à ce niveau les décisions et les choix que vous faites à propos de votre soi. D'autres, quelques élus, retourneront avec une mission différente. Vous reviendrez à la densité et à la matière dans le seul but d'aider d'autres gens à sortir de la densité et de la matière. Il y en a toujours parmi vous, sur la Terre, qui ont fait ce choix. Tu peux les distinguer d'un seul coup. Leurs œuvres sont terminées. Ils ne sont retournés sur Terre que pour aider les autres. C'est leur joie. C'est leur exaltation. Ils ne cherchent qu'à servir. Tu ne peux rater ces gens. Ils sont partout. Ils sont plus nombreux que tu ne le crois. Les chances sont que tu en connaisses ou que tu en aies entendu parler. Question. En suis-je un? Réponse. Non. Puisque tu le demandes, tu sais que tu n'en es pas un. Une telle personne ne pose de questions à personne. Il n'y a rien à demander. Toi, mon fils, en cette vie, tu es un messager, un avant-coureur, un porteur de nouvelles, un chercheur qui dit souvent la vérité. C'est suffisant pour une seule vie. Réjouis-toi. Question. Oh, je me réjouis, mais je pourrais toujours espérer davantage. Réponse. Oui, et tu le feras. Tu espéreras toujours davantage, c'est dans ta nature. C'est dans la nature divine que de toujours chercher à être davantage. Alors cherche, oui, cherche, par tous les moyens. Je veux maintenant répondre, une fois pour toutes, à la question par laquelle tu as entamé ce segment de notre conversation continue. Vas-y, fais ce que tu aimes vraiment. Ne fais rien d'autre. Tu as si peu de temps. Comment peux-tu songer à gaspiller un seul instant à faire pour vivre quelque chose que tu n'aimes pas? Quel est ce genre de vie? Ce n'est pas une vie, c'est la mort. Si tu dis mais d'autres gens dépendent de moi, des petites bouches à nourrir, une conjointe qui s'occupe de moi, je répondrai, si tu insistes pour que ta vie corresponde à ce que fait ton corps, tu ne comprends pas pourquoi tu es venu. Au moins, fais quelque chose qui te plaît, qui parle de qui tu es. Au moins, tu pourras rester à l'écart du ressentiment et de la colère envers ceux qui, selon toi, t'éloignent de ta joie. Il ne faut pas sous-estimer ce que fait ton corps. C'est important, mais pas comme tu le crois. Les actions du corps étaient censées être des reflets d'un état d'être et non des tentatives en vue d'atteindre un état d'être. Dans l'ordre véritable des choses, on ne fait pas quelque chose afin d'être heureux. On est heureux et par conséquent, on fait quelque chose. On ne fait pas quelque chose afin d'être compatissant. On est compatissant et par conséquent, on agit d'une certaine manière. Chez une personne à la conscience élevée, la décision de l'âme précède l'action du corps. Seule une personne inconsciente tente de produire un état d'âme à travers ce que le corps est en train de faire. C'est ce qu'on entend par l'affirmation « ta vie n'est pas ce que ton corps est en train de faire ». Oui, il est vrai que ce que ton corps est en train de faire est un reflet de ta vie. Voilà une autre dichotomie divine. Mais si tu ne comprends rien d'autre, sache au moins ceci. Tu as droit à la joie, enfant ou pas, conjointe ou pas. Cherche-la, trouve-la, et tu auras une famille joyeuse, peu importe combien d'argent tu gagnes. Et s'ils ne sont pas joyeux, et qu'ils se lèvent et s'en vont, libère-les avec amour, afin qu'ils cherchent leur joie. Si, d'un autre côté, tu as évolué au point où les choses du corps ne sont d'aucune préoccupation à tes yeux, alors tu seras encore plus libre de chercher ta joie, sur la terre comme au ciel. Dieu dit qu'il est bien d'être heureux. Oui, même heureux au travail. Ton travail est une affirmation de qui tu es. Si ça ne l'est pas, alors pourquoi continuer? T'imagines-tu que tu dois le faire? Tu n'as rien à faire. Si un homme qui soutient sa famille à tout prix, même à celui de son propre bonheur, c'est qui tu es, alors aime ton travail, car il facilite ta création d'une affirmation vivante du soi. Si une femme qui tient un emploi qu'elle déteste afin d'assumer ce qu'elle perçoit comme étant des responsabilités, c'est qui tu es, alors aime ton travail, car il soutient complètement ton image de soi, ton concept de soi. Chacun peut tout aimer dès qu'il comprend ce qu'il fait et pourquoi. Personne ne fait rien qu'il ne désire faire.